Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. Ami, te souviens-tu qu'en route pour Cologne, un dimanche à Dijon, au cœur de la Bourgogne, nous allions admirant clochers, portails et tours, et les vieilles maisons dans les arrières-cours, Sainte-Beuve, les Consolations. Gothique donjon et la flèche gothique, dans un ciel d'optique, là-bas c'est Dijon. Ces joyeuses treilles n'ont point leur pareille, ces clochers jadis se comptaient par dix. Là, plus d'une pinte est sculptée ou peinte, là, plus d'un portail s'ouvrant d'éventail. Dijon, moult te tarde, et mon luth camard chante ta moutarde et ton jacquemart. J'aime Dijon comme l'enfant de sa nourrice dont il a sucé le lait, comme le poète la jouvencelle qui a initié son cœur. Enfance et poésie, que l'une est éphémère et que l'autre est trompeuse. L'enfance est un papillon qui se hâte de brûler ses blanches ailes aux flammes de la jeunesse, et la poésie est semblable à l'amandier. Ses fleurs sont parfumées et ses fruits sont amères. J'étais un jour assis à l'écart dans le jardin de l'Arquebuse, ainsi nommé de l'arme qui autrefois y signala si souvent l'adresse des chevaliers du pape gay. Immobile sur un banc, on eût pu me comparer à la statue du bastion Bazire. Ce chef-d'œuvre du figuriste Sévalé et du peintre Guillot représentait un abbé assis et lisant. Rien ne manquait à son costume. De loin, on le prenait pour un personnage. De près, on voyait que c'était un plâtre. L'atout d'un promeneur dissipa les seins de mes rêves. C'était un pauvre diable dont l'extérieur n'annonçait que misère et souffrance. J'avais déjà remarqué dans le même jardin sa redingote râpée qui se boutonnait jusqu'au menton, son feutre déformé que jamais brosse n'avait brossé, ses cheveux longs comme un saule, épeignés comme des broussailles, ses mains décharnées, pareilles à des ossuaires, sa physionomie narquoise, chafouine et maladive, que filait une barbe nazaréenne. Et mes conjectures l'avaient charitablement rangé parmi ces artistes aux petits pieds, joueur de violon et peintre de portrait, qu'une faim irrassasiable et une soif inextinguible condamnent à courir le monde sur la trace du juif errant. Nous étions maintenant deux sur le banc. Mon voisin feuilletait un livre, des pages duquel s'échappa à son insu une fleur desséchée. Je la recueillis pour la lui rendre. L'inconnu me saluant, la porta à ses lèvres flétries et la replaça dans le livre mystérieux. Ah, cette fleur, me hasardai-je à lui dire, est sans doute le symbole de quelque doux amour enseveli. Hélas, nous avons tous dans le passé un jour de bonheur qui nous désenchante l'avenir. Vous êtes poète, me répondit-il en souriant. Le fil de la conversation s'était noué. Maintenant, sur quelle bobine allait-il s'envider? Ô poète, si c'est poète que d'avoir cherché l'art. Vous l'avez cherché l'art, et vous l'avez trouvé? Ô plutôt ciel, que l'art ne fût pas une chimère. Une chimère, et moi aussi je l'ai cherché, s'écria-t-il avec l'enthousiasme du génie et l'emphase du triomphe. Je priais de m'apprendre à quel lunetier il devait sa découverte, l'ayant été pour moi ce qu'est une aiguille dans une meule de foin. J'avais résolu, dit-il, de chercher l'art, comme au Moyen-Âge les Rose-Croix cherchèrent la pierre philosophale. L'art, cette pierre philosophale du XIXe siècle. Une question exerça d'abord ma scolastique. Je me demandais, mais qu'est-ce que l'art? L'art est la science du poète. Définition aussi limpide qu'un diamant de la plus belle eau. Mais quels sont les éléments de l'art? Seconde question à laquelle j'hésitais pendant plusieurs mois de répondre. Et un soir, qu'à la fumée d'une lampe, je fossoyais le poudre charnier d'un bouquiniste, j'y déterrai un petit livre en langue baroque et inintelligible, dont le titre s'armoriait d'un amphistère déroulant sur une banderole ces deux mots « Gott, Liebe ». Quelques sous payèrent ce trésor. J'escaladai ma mansarde et là, comme j'épelais curieusement le livre énigmatique devant la fenêtre baignée d'un clair de lune, soudain il me sembla que le doigt de Dieu effleurait le clavier de l'orgue universel. Ainsi les phalènes bourdonnantes se dégagent du sein des fleurs qui pâment leurs lèvres au baiser de la nuit. J'enjambais la fenêtre et je regardais en bas. Oh, surprise, rêvais-je ! Une terrasse que je n'avais pas soupçonnée aux suaves émanations de ces orangers. Une jeune fille vêtue de blanc qui jouait de la harpe. Un vieillard vêtu de noir qui priait à genoux. Oh, le livre me tomba de la main. Je descendis chez le locataire de la terrasse. Le vieillard était un ministre de la religion réformée qui avait échangé la froide patrie de sa Thuringe contre le tiède exil de notre Bourgogne. La musicienne était son unique enfant, blonde et frêle beauté de 17 ans, qu'effeuillait un mal de langueur. Et le livre par moi réclamé était un eucologe allemand à l'usage des églises du rite luthérien et aux armes d'un prince de la maison d'Anhalt-Göthen. Ah, monsieur, ne remont pas une cendre encore inassoupie. Élisabeth n'est plus qu'une Béatrice à la robe azurée. Elle est morte, monsieur, morte. Et voici le collège où elle épanchait sa timide prière. La rose où elle a exhalé son âme innocente. Fleurs desséchées en boutons comme elle. Livre fermé comme le livre de sa destinée. Relique bénie, qu'elle ne méconnaîtra pas dans l'éternité, aux larmes dont elles seront trempées, quand la trompette de l'archange ayant rompu la pierre de mon tombeau, je m'élancerai par-delà tous les mondes jusqu'à la Vierge adorée, pour m'asseoir enfin près d'elle, sous les regards de Dieu. Et l'art, lui demandai-je. Mais ce qui dans l'art et sentiment était ma douloureuse conquête. J'avais aimé, j'avais prié. Gott, Liebe, Dieu et amour. Mais ce qui dans l'art était l'idée, l'aurait encore ma curiosité. Je crus que je trouverais le complément de l'art dans la nature. J'étudiais donc la nature. Je sortais le matin de ma demeure et je n'y rentrais que le soir. Tantôt, accoudé sur le parquet d'un bastion en ruine, j'aimais pendant de longues heures à respirer le parfum sauvage et pénétrant du violier qui mouchette de ses bousquets d'or la robe de lierre de la féodale et caduque cité de Louis XI. À voir s'accidenter le paysage tranquille d'un coup de vent, d'un rayon de soleil ou d'une onde de pluie, le bec-figue et les oisillons des haies se jouaient dans la pépinière éparpillée d'ombres et de clartés, les grives accourues de la montagne vendangeaient la vigne assez haute et touffue pour cacher le cerf de la fable, les corbeaux s'abattre de tous les coins du ciel en bandes fatiguées sur la carcasse d'un cheval abandonné par le pialet dans quelques bas-fonds verdoyants, à écouter les lavandières qui faisaient retentir leur rouillot joyeux au bord de Suzon, et l'enfant qui chantait une mélodie plaintive en tournant sous la muraille la roue du cordier. Et tantôt je frayais à mes rêveries un sentier de mousse et de rosée de silence et de quiétude, loin de la ville. Que de fois j'ai ravi leurs quenouilles de fruits rouges et acides, aux alliés mal hantés de la fontaine de Jouvence et de l'ermitage de Notre-Dame-des-Temps, la fontaine des esprits et des fées, l'ermitage du diable. Que de fois j'ai ramassé le buccin pietrifié et le corail fossile sur les hauteurs pierreuses de Saint-Joseph ravinées par l'orage. Que de fois j'ai pêché les crevisses dans les gais échevelés des tilles, parmi les cressons qui abritent la salamande glacée et parmi les nénuphars dont baillent les fleurs indolentes. Que de fois j'ai épié la couleuvre sur les pages embourbées de Solon, qui n'entendent que le cri monotone de la foulque et le gémissement funèbre du grèbe. Que de fois j'ai étoilé d'une bougie les grottes souterraines d'Anières où la stalactite distille avec lenteur l'éternelle goutte d'eau de la clepsydre des siècles. Que de fois j'ai hurlé de la corne sur les rocs perpendiculaires de chèvres mortes, la diligence gravissant péniblement le chemin à 300 pieds au-dessous de mon trône de brouillard. Et les nuits même, les nuits d'été, balsamiques et diaphanes, que de fois j'ai gigué comme un lycanthrope autour d'un feu allumé dans le vert et herbu et d'un taser, jusqu'à ce que les premiers coups de cognée du bûcheron ébranlassent les chaînes. Ah, monsieur, combien la solitude a d'attrait pour le poète! J'aurais été heureux de vivre dans les bois et de ne faire pas plus de bruit que l'oiseau qui se désaltère à la source, que l'abeille qui picore à l'aubépine et que le gland dont la chute crève la feuillée. Et l'art, lui demandai-je. Patience! L'art était encore dans les limbes. J'avais étudié le spectacle de la nature. J'étudiais les monuments des hommes. 10 jours n'a pas toujours parfilé ses heures oisives au concert de ses philharmoniques enfants. Il a endossé le haubert, coiffé le morion, brandi la pertuisane, dégainé l'épée et amorcé les carquemuses, braqué le canon sur ses remparts, couru les champs tambours battants et enseignes déchirées. Et comme le ménestrel gris de la barbe qui emboucha la trompette avant de racler du rebec, il aurait de merveilleuses histoires à vous raconter, ou plutôt ces bastions croulants qui encaissent dans une terre mêlée de débris les racines feuilleuses de ces marronniers d'Inde et son château démantelé dont le pont tremble sous le pas éreinté de la jument du gendarme regagnant la caserne, tout atteste deux Dijons. Un Dijon d'aujourd'hui, un Dijon d'autrefois. J'eus bientôt déblayé le Dijon des XIVe et XVe siècles, autour duquel courait un branle de 18 tours, de 8 portes et de 4 poternes ou portelles. Le Dijon de Philippe le Hardi, de Jean sans peur, de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire, avec ses maisons de torchis à pignons pointus comme le bonnet d'un fou, à façade barrée de croix de Saint-André, avec ses hôtels embastillés à étroites barbacanes, à double quichet, à bréau bavé de hallebardes, avec ses églises, sa Sainte-Chapelle, ses abbayes, ses monastères, qui faisaient des processions de clochers, de flèches, d'aiguilles, déployant pour bannière leurs vitres d'or et d'azur, promenant leurs reliques miraculeuses, s'agenouillant aux cryptes sombres de leurs martyrs ou aux reposoirs flétris de leurs jardins, avec son torrent de Suzon, dont le cours, chargé de poncelles de bois et de moulins à farine, séparait le territoire de la baie de Saint-Bénigne du territoire de la baie de Saint-Yenne, comme un ruissier au Parlement jetait sa verge et son holà entre deux plaideurs bouffis de colère. Et enfin, avec ses faubourgs populeux, dont l'un, celui de Saint-Nicolas, est allé ses 12 rues au soleil, ni plus ni moins qu'une grasse truie en gésine ses 12 mamelles. J'avais galvanisé un cadavre, et ce cadavre s'était levé. Dijon se lève. Il se lève, il marche, il court. 30 dindelles carillonnent dans un ciel bleu d'outre-mer, comme en peignait le vieil Albert Durer. La foule se presse aux hôtelleries de la rue Bouchepot, aux étuves de la porte aux chanoines, aux mailles de la rue Saint-Guillaume, aux changes de la rue Notre-Dame, aux fabriques d'armes de la rue des Forges, à la fontaine de la place des Cordeliers, au four banal de la rue de Bèze, aux halles de la place Champeau, aux gibets de la place Morimont. Bourgeois, nobles, vilains, soudriers, prêtres, moines, clercs, marchands, variés, juifs, lombards, pèlerins, ménestrels, officiers du Parlement et de la Chambre des Comptes, officiers des gabelles, officiers de la monnaie, officiers de la gruerie, officiers de la maison du duc, et qui clament, qui sifflent, qui chantent, qui geignent, qui prient, qui maugréent, dans des basternes, dans des litières, à cheval, sur des mules, sur la raquenée de Saint-François. Et comment douter de cette résurrection? Voici flotter au vent l'étendard de soie, moitié vert, moitié jaune, broché des armoiries de la ville, qui sont de gueule aux pampres d'or, feuillées de sinople. Mais quelle est cette cavalcade? C'est le duc qui va s'ébattre à la chasse. Déjà la duchesse l'a précédé au château de Rouvres. Le magnifique équipage et le nombreux cortège. Monseigneur le duc éperonne un gris pommelé qui frissonne à l'air vif et piquant du matin. Derrière lui caracole et se pavane les riches de Châlons, les nobles de Vienne, les preux de Vergy, les fiers de Neuchâtel, les bons barons de Beaufremont, et ces deux personnages qui chevauchent à la queue de la file. Le plus jeune, que distingue son juste au corps de velours sang de bœuf et sa marotte grelottante, s'égosille de rire. Le plus vieux, accoutré d'une cape de drap noir, sous laquelle il retraite un volumineux psautier, baisse la tête d'un air confus. L'un est le roi des ribauds, l'autre le chapelain du duc. Le fou propose au sage des questions que celui-ci ne peut résoudre. Et tandis que la populace crie Noël, que les palefrois hennissent, que les limiers aboient, que les cerfs fanfarent, eux la brident sur le cou de leur monture à l'amble, devinent familièrement de la sage dame Judith et du prud'homme Maccabée. Cependant, un héros sonne de la bucine sur la tour du logis du duc. Il signale dans la plaine les chasseurs lançant leurs faucons. Le temps est pluvieux. Une bruine grisâtre lui dérobe au loin l'abbaye de Cîteaux qui baigne ses bois dans les marécages. Mais un rayon de soleil lui montre, plus rapproché et plus distinct, le château de Talant, dont les terrasses et les plateformes se crénellent dans la nuit, les manoirs du sire de Ventoux et du seigneur de Fontaine, dont les girouettes percent des massifs de verdure, le monastère de Saint-Maur, dont les colombiers s'aiguisent au milieu d'une volée de pigeons, la léproserie de Saint-Apollinaire, qui n'a qu'une porte et n'a point de fenêtre, la chapelle de Saint-Jacques de Trimolois, qu'on dirait un pèlerin cousu de coquilles, et, sous les murs de Dijon, au-delà des mecs de l'abbaye de Saint-Bénigne, le cloître de la Chartreuse, blanc comme le froc des disciples de Saint-Bruno. La Chartreuse de Dijon, le Saint-Denis des ducs de Bourgogne. Ah, pourquoi faut-il que les enfants soient jaloux des chefs-d'œuvre de leur père? Allez maintenant, où fit la Chartreuse, Vos pas y heurteront sous l'herbe des pierres qui ont été des clés de voûte, des tabernacles d'autels, des chevets de tombeaux, des dalles d'oratoire, des pierres où l'encens a fumé, où la cire a brûlé, où l'orgue a murmuré, où les ducs morts ont posé le front. Ô néant de la grandeur et de la gloire, on plante des calebasses dans la cendre de Philippe le Bon. Plus rien de la chartreuse. Ah, je me trompe, le portail de l'église et la tourelle du clocher sont debout. La tourelle est lancée légère, une touffe de giroflées sur l'oreille, ressemble à un jouvenceau qui mène en laisse un lévrier. Le portail martelé serait encore un joyau à pendre au cou d'une cathédrale. Il y a outre cela, dans le préau du cloître, un piédestal gigantesque, dont la croix est absente et autour duquel sont nichées 6 statues de prophètes admirables de désolation. Et que pleure-t-il ? Il pleure la croix que les anges ont reportée dans le ciel. Le sort de la chartreuse a été celui de la plupart des monuments qui embellissaient Dijon à l'époque de la réunion du duché au domaine royal. Cette ville n'est plus que l'ombre d'elle-même. Louis XI l'avait découronnée de sa puissance. La Révolution l'a décapitée de ses cloches. Il ne lui reste plus que 3 églises, de 7 églises, d'une sainte chapelle, de 2 abbayes et d'une douzaine de monastères. 3 de ses portes sont bouchées, ses poterres ont été démolies, ses faubourgs ont été rasés, son torrent de Suzon s'est précipité aux égouts, sa population a secoué ses feuilles et sa noblesse est tombée en quenouille. Hélas! On voit bien que le duc Charles et sa chevalerie partis, il y aura bientôt 4 siècles, pour la bataille n'en sont pas revenus. Et moi, j'errai parmi ces ruines, comme l'antiquaire qui cherche des médailles romaines dans les sillons d'un castrum, après une grosse pluie d'orage. Dijon expiré conserve encore quelque chose de ce qu'il fut, semblable à ces riches Gaulois qu'on ensevelissait une pièce d'or à la bouche et une autre dans la main droite. « Mais l'art ?» lui demandai-je. J'étais un jour occupé devant l'église Notre-Dame à considérer Jacquemart, sa femme et son enfant qui martelaient midi. L'exactitude, la pesanteur, le flegme de Jacquemart serait le certificat de son origine flamande, quand même on ignorait qu'il dispensait les heures aux bons bourgeois de Courtrai lors du sac de cette ville en 1383. Gargantua escabota les cloches de Paris, Philippe le Hardi l'horloge de Courtrai. Chaque prince a sa taille. Un éclat de rire se fit entendre là-haut, et j'aperçus dans un angle du gothique édifice une de ces figures monstrueuses que les sculpteurs du Moyen-Âge ont attaché par les épaules aux gouttières des cathédrales. Une atroce figure de damné qui, en proie aux souffrances, tirait la langue, grinçait les dents et se tordait les mains. C'était elle qui avait ri. « Mais vous aviez un fétu dans l'œil !» m'écriai-je. « Oh non, ni fétu dans l'œil, ni coton dans l'oreille. La figure de pierre avait ri. » Rit d'un rire grimaçant, effroyable, infernal, mais sarcastique, incisif, pittoresque. J'eus honte, à part moi, d'avoir eu si longtemps à faire un monomane. Cependant, j'encourageais d'un sourire le rose-croix de l'art à poursuivre sa drôlatique histoire. « Cette aventure, continua-t-il, me donna à réfléchir. Je réfléchis que, puisque Dieu et l'amour étaient les premières conditions de l'art, ce qui dans l'art est sentiment, oh, Satan pourrait bien être la seconde de ces conditions, ce qui dans l'art est idée. N'est-ce pas le diable qui a bâti la cathédrale de Cologne ? Eh ben voilà, en quête du diable. Je blêmis sur les livres magiques de Cornelius Agrippa, et j'égorge la poule noire du maître d'école, mon voisin. Pas plus de diable qu'au bout du rosaire d'une dévote. Néanmoins, il existe. Saint Augustin en a de sa plume légalisé le signalement. Daemones sunt genere animalia, ingenio rationabilia, animo passiva, corpore aerea, tempore aeterna. Mais cela est possible, le diable existe. Il pérore à la chambre, il plaide au palais, il agiote à la bourse. On le grave en vignette, on le broche en roman, on l'habille en drame. On le voit partout, comme je vous vois. C'est pour lui, épiler mieux la barbe, que les miroirs de poche ont été inventés. Polichinelle a manqué son ennemi et le nôtre. Oh, que ne l'a-t-il assommé d'un coup de bâton sur la nuque? Je bus l'élixir de Paracelse le soir avant de me coucher. J'eus la colique. Nulle part le diable en corne et en queue. Encore un désappointement. L'orage, cette nuit-là, mouillait jusqu'aux os la vieille cité accroupie dans le sommeil. Comme je rôdais à tâtons, en y voyant goutte, dans les anfractuosités de Notre-Dame, c'est ce que vous expliquera ce sacrilège. Il n'y a pas de serrure dont le crime n'est la clé. Ayez pitié de moi, j'avais besoin d'une hostie et d'une relique. Une clarté piqua les ténèbres, plusieurs autres se montrèrent successivement, de sorte que je distinguais bientôt quelqu'un dont la main affûtée d'un long allumoir distribuait la flamme aux chandelles du maître-autel. C'était Jacques Mar, qui, non moins imperturbable que de coutume, sous sa caule de fer rapiécé, acheva sa besogne sans paraître s'inquiéter ni même s'apercevoir de la présence d'un témoin profane. Jacqueline, agenouillée au degré, gardait une immobilité parfaite. La pluie découlant de sa jupe de plomb a tourné à la mode brabançonne, de sa gorge raide de tôle tuyautée comme une dentelle de Bruges, de son visage de bois verni comme les joues d'une poupée de Nuremberg. Je lui bégayais une humble question sur le diable et sur l'art. Quand le bras de la maritonne se débanda avec la précipitation soudaine et brutale d'un ressort, et au bruit cent fois répercuté du lourd marteau qu'elle serrait du poing, la foule des abbés, des chevaliers, des bienfaiteurs qui peuplent de leurs gothiques momies les caveaux gothiques de l'église afflua processionnellement autour de l'autel éblouissant de planteurs vives et ailées de la crèche de Noël. La Vierge noire, la Vierge des temps barbares, haute d'une coudée, à la tremblante couronne de fil d'or, à la robe raide d'empois et de perles, la Vierge miraculeuse, devant qui grésille une lampe d'argent, sauta en bas de sa chaire et courut sur les dalles de la vitesse d'un toton. Elle s'avançait des nefs profondes, à bonds gracieux et inégaux, accompagnée d'un petit Saint-Jean de cire et de laine, qu'embrasa une étincelle et qui se fondit bleu et rouge. Jacqueline s'était armée de ciseaux pour tendre l'occiput de son enfanson emmailloté. Un cierge éclaira au loin la chapelle du baptistère, et alors, le soleil qui luisait par un pertuis, les moineaux qui becquetaient mes vitres, et les cloches qui marmonnaient une ancienne dans la rue m'éveillèrent. Ah, j'avais fait un rêve. Et le diable, il n'existe pas. Et l'art, il existe. Mais où donc? Mais au sein de Dieu. Et son œil, où germait une larme, sondait le ciel. « Nous ne sommes, nous, monsieur, que les copistes du Créateur. La plus magnifique, la plus triomphante, la plus glorieuse de nos œuvres éphémères n'est jamais que l'indigne contrefaçon, que le rayonnement éteint de la moindre de ces œuvres immortelles. Toute originalité est un aiglon qui se brise la coquille de son œuf que dans les airs sublimes et foudroyantes du Sinaï. Oui, monsieur, j'ai longtemps cherché l'art absolu. Oh, délire, oh, folie! Regardez ce front ridé par la couronne de fer du malheur. 30 ans, et l'arcane que j'ai sollicité de tant de veillées opiniâtres, et à qui j'ai immolé jeunesse, amour, plaisir, fortune, l'arcane gît inerte et insensible, comme le vin vif caillou dans la cendre de mes illusions. Le néant ne vivifie point le néant. Il se levait. Je lui témoignais ma commisération par un soupir hypocrite et banal. Ce manuscrit, ajouta-t-il, vous dira combien d'instruments ont essayé mes lèvres avant d'arriver à celui qui rend la note pure et expressive. Combien de pinceaux j'ai usés sur la toile avant d'y voir naître la vague horreur du clair-obscur. Là sont consignés divers procédés nouveaux, peut-être d'harmonie et de couleur, seul résultat et seule récompense qu'eussent obtenu mes élucubrations. Lisez-le, vous me le rendrez demain. 6 heures sonnent dans la cathédrale, elle chasse le soleil qui s'esquive le long de ses lilas. Je vais m'enfermer pour écrire mon testament. Bonsoir. Monsieur, il était loin. Je demeurais aussi coi et penaud qu'un président à qui son greffier aurait pris une puce le vauchant sur le nez. Le manuscrit était intitulé « Gaspard de la nuit, fantaisie à la manière de Rembrandt et de Callot ». Le lendemain était un samedi. Personne à l'arquebuse. Quelques juifs qui festoyaient le jour du sabbat. Je courus par la ville m'informant de M. Gaspard de la nuit à chaque passant. Les uns me répondaient « Oh, vous plaisantez !» Les autres « Eh, qu'ils vous tordent le cou !» Et tous aussitôt me plantaient là. J'abordais un vigneron de l'air rue Saint-Folbard, Nabo et Bossu, qui se carrait sur sa porte en riant de mon embarras. Connaissez-vous, monsieur Gaspard de la nuit? Que lui voulez-vous à ce garçon-là? Mais je veux lui rendre un livre qu'il m'a prêté. Un grimoire? Comment un grimoire? Mais enseignez-moi, je vous prie, son domicile. Là-bas, où passe pied de biche? Mais cette maison, vous m'adressez à monsieur le curé. Bon, c'est que je viens de le voir entrer chez lui, la grande brune qui blanchit ses aubes et ses rabats. Mais qu'est-ce que cela signifie? Mais cela signifie que monsieur Gaspard, de la nuit, s'attifle quelquefois en jeune et jolie fille pour tenter les dévots personnages. Témoin son aventure avec saint Antoine, mon patron. Non, faites-moi grâce de vos malignités et dites-moi où est M. Gaspard de la nuit. Bon, il est en enfer. Supposez qu'il ne soit pas ailleurs. Ah, oh, je m'avise enfin de comprendre. Quoi, Gaspard de la nuit serait... Eh oui, le diable. Merci, mon brave. Si Gaspard de la nuit est en enfer, qu'il y rôtisse. J'imprime son livre, Louis Bertrand.